Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre enregistrée en ce mercredi 12 juin de l'année 2019 à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bré à l'occasion d'une soirée de sensibilisation Saint-Jean-de-Bré en transition avec pour thème la finance solidaire. Il y aura plusieurs invités qui vont se succéder au micro du Bondy Blog Centre, le Bondy Blog Centre Café Média participatif de Radio Campus Orléans. Nous allons parler finance solidaire avec deux sujets. Le premier, ce sera la monnaie locale. Le deuxième, ce sera l'épargne solidaire et le financement participatif. Je vais commencer tout de suite par quelques chiffres extraits de Finance Solidaire, un hors-série de La Croix qui paraît chaque année. La Finance Solidaire en France, c'est 423 000 nouvelles souscriptions d'un placement solidaire, d'épargnants via leur entreprise, d'épargnants via leur banque ou mutuelle d'assurance, d'épargnants via une entreprise solidaire qui ont déposé 1 milliard d'euros supplémentaires sur les placements solidaires pour un encours total de 12,6 milliards d'euros au 31 décembre 2018, qui ont permis de verser 4,1 millions d'euros de dons à des associations et qui par ailleurs ont généré 367,4 millions d'euros de financement solidaire pour soutenir des projets à vocation sociale et environnementale, tels que 48 000 emplois créés ou consolidés, 3 050 personnes relogées, 22 600 foyers approvisionnés en électricité renouvelable et près de 70 acteurs du développement économique dans les PED, pays en développement. On va commencer tout de suite avec une première question posée à Madame Brigitte Jaillet, élue à la transition et à la cohésion sociale pour la ville de Saint-Jean-de-Bré. C'est quoi la démarche de transition globale ? Enfin, bonjour d'abord.
Bonjour. C'est compliqué d'expliquer rapidement la démarche de transition, mais il s'agit de préparer la société, la nouvelle société, puisqu'on voit bien que notre société actuelle est basée notamment sur le pétrole. Or, ce pétrole va devenir de plus en plus rare, de plus en plus cher. On fonctionne sur des modèles économiques qui conduisent la planète à notre perte. On voit tous les changements climatiques, tout ce qui se passe autour de nous. Et ici, à Saint-Jean-de-Bré, plutôt que de faire l'autruche, de dire finalement, on a très peur de tout ce qui va se passer et on se replie sur soi, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, il faut voir comment on peut aider notre territoire à être résilient, c'est-à-dire à être capable de rebondir et de préparer la société de demain. Voilà. Et donc, on essaye de le faire. Moi, je suis élue. Et la difficulté, c'est de le faire avec les habitants, parce qu'on ne peut rien faire sans les habitants. Ça implique des changements de comportement, ça implique un pouvoir d'agir. Et donc, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que les habitants de Saint-Jean-de-Bray se mettent en mouvement et travaillent justement pour cette transition.
Merci. Pourquoi cette thématique de la finance solidaire ?
Parce que la transition, elle est dans tous les domaines. Je l'ai dit tout à l'heure, on sait aussi bien spontanément, tout le monde pense d'abord à l'écologie, à l'environnement, à la nature. Mais tout ça ne peut fonctionner, c'est un ensemble. Et la finance fait partie de cet ensemble. C'est indispensable d'avoir de l'argent pour financer des projets. Et donc là aussi, de la même manière qu'il y a différentes manières de cultiver, il y a une agriculture respectueuse de l'environnement et une autre qui ne l'est pas. Et bien, au niveau de la finance, on pense qu'il y a une finance qui est respectueuse d'un certain nombre de valeurs et d'autres qui le sont moins.
Merci Madame Gialet. Je me tourne à présent vers Alice Huxner, qui est chargée de développement pour le Centre Réseau Économie Solidaire. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la finance solidaire ?
Donc la finance solidaire, on a essayé de la définir tout à l'heure avec le public ici présent. Donc on est quand même une bonne quarantaine. Pour faire très court, c'est une finance qui va respecter trois principes essentiels. Donc la transparence vis-à-vis des épargnants, c'est-à-dire qu'un épargnant, quand il va mettre 100 euros, il sait où vont ces 100 euros. Ça marche aussi bien par rapport à la destination de son épargne que la gestion de son épargne par l'organisation qui va avoir... qui va faire le médiateur, en fait, qui va prendre son épargne et qui va l'emmener quelque part. Donc, ça va être aussi bien l'outil, l'organisation, la banque, que Donc savoir en fait ce qui se passe. Donc on a une transparence qui est plus ou moins forte. Si déjà on sait où son argent va, c'est pas mal. Mais si en plus on sait exactement comment il est dépensé, donc quelle part va à l'organisation, quelle part va au projet, c'est encore mieux. Il y a un deuxième principe qui est l'éthique des projets financés. Donc une éthique qui est dirigée au profit de la planète et de l'homme en général, donc qui tient compte de l'humain et de la planète. Et donc là encore, les projets sont... donc par exemple, on a parlé de la NEF tout à l'heure. Donc la NEF, elle dirige toute l'épargne qu'elle collecte vers des projets, soit culturels, soit sociaux, soit, il m'en manque un, environnementaux. Voilà. Et donc c'est très bien de savoir que ça va en général vers l'un ou l'autre, mais peut-être... il peut y avoir une façon, enfin, je pense d'ailleurs que la NEF le fait, qu'elle évalue l'éthique de ses projets. C'est-à-dire que la NEF exclut, je pense, assez facilement les projets de greenwashing en matière environnementale. C'est juste pour un exemple. Et le troisième principe, c'est la question de la citoyenneté et du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que dans l'épargne solidaire, la finance solidaire, c'est très important que l'épargnant choisisse vers quel projet ou vers quel domaine va aller son épargne. Donc il a la capacité de choisir, on lui accorde cette capacité, cette intelligence de choisir. Et donc pour l'épargnant, c'est favorable parce que ça l'engage en fait. Comme il choisit, il est obligé de s'engager dans ce choix et dans cette réflexion, et du coup ça a des impacts qui vont au-delà de son épargne. Voilà.
Transparence,
éthique des projets financés et pouvoir d'agir, c'est-à-dire le choix. Donner le choix à l'épargnant de diriger son épargne vers tel ou tel projet.
Voilà, et on va justement se pencher sur ce pouvoir d'agir avec d'autres invités qui sont avec nous autour de cette table. Je vais m'adresser à Dominique Fleura. Elle représente la Lignière, une monnaie locale du Berry, et d'ailleurs un peu plus loin que le Berry, puisque cette monnaie s'étend sur deux départements. Actuellement, en France, il y a 30 monnaies locales complémentaires. Beaucoup sont en fonctionnement et d'autres sont en projet. Dans le monde, l'usage des monnaies locales a fortement augmenté ces 20 dernières années. Aujourd'hui, il existe plus de 5000 systèmes de monnaie locale en Europe. La Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni restent les plus grands utilisateurs de ce système. Je vous le disais tout à l'heure, donc, le territoire d'utilisation de la Lignière est à la fois sur le Cher et également l'Indre, les départements ruraux particulièrement affectés par les difficultés économiques et sociales. J'en profite pour rappeler qu'une loi de 2014 ainsi que le code monétaire et financier autorise la circulation de monnaie locale complémentaire affectée à un territoire particulier et s'échangeant au sein d'un réseau d'adhérents. Bonsoir Dominique Fleura. Bonjour, oui, c'est vrai qu'on a dit qu'on se disait bonjour. La Lignière, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de la création de cette monnaie locale?
Alors, la genèse de la création de la Lignière, c'est à la fois un rappel historique, puisqu'il a existé une monnaie locale à Lignière en 1956, mais à l'époque, elle n'était pas encadrée par la loi, et donc la Banque de France a fait un peu le holà, et elle n'est restée en fonctionnement que 2 ans. Mais elle répondait déjà au fait qu'il y avait des difficultés économiques sur le territoire et que pour pouvoir relancer l'économie locale, il y avait eu cette démarche de la commune libre de Lignière et des coupons qui avaient été mis en circulation. Donc depuis, les choses ont bien changé, on vient de le rappeler. Il y a la loi donc, de 2014, la loi Hamon, qui a encadré le fonctionnement des monnaies, même si certaines ont commencé plus tôt. Une des plus anciennes en France, c'est l'Abeille donc, en Lot-et-Garonne, qui a commencé en 2011. Et il y a eu quand même un grand développement, à la suite notamment de la diffusion du film « Demain », qui a montré vraiment le fonctionnement que pouvait avoir une monnaie, même si en France et dans d'autres pays d'Europe, c'est un petit peu différent. Mais le principe est, j'allais dire, à la fois simple et un peu compliqué par le fait que ce sont les citoyens qui travaillent au projet de monnaie qui vont s'organiser dans le cadre de la loi, bien sûr. Alors la loi, c'est simple, il faut qu'il y ait un territoire défini et il faut qu'il y ait un réseau d'utilisateurs qui soit aussi défini. Et normalement, le taux d'échange entre les monnaies, 1 euro pour une unité de monnaie locale. Donc ça, c'est le cadre général. Et le fonctionnement, c'est à peu près pour toutes les monnaies la même chose. C'est le pouvoir d'agir du citoyen. Donc c'est lui qui va s'organiser, qui va décider, qui va construire ses outils de fonctionnement, qui va aller au contact donc, de ce qu'on appelle les prestataires, c'est-à-dire des producteurs, des services, des petites entreprises. Voilà. Et il va se mettre un certain nombre de conditions. Il y a des comités d'éthique, de sage, de prestataire pour définir, il y a une charte des valeurs, je l'ai mise sur la table, pour définir quel prestataire va pouvoir faire partie du réseau. Et cette question du réseau, elle est importante. Je crois que tous ont fait des courses et certains disent, ben moi je fais déjà un effort, je consomme local, qu'est-ce que la monnaie va apporter de plus ? L'objectif de la monnaie, c'est aussi de faire en sorte que là où on fait ses courses, par exemple un petit commerce, il va avoir des producteurs, il va avoir des fournisseurs, et l'objectif c'est que l'argent tourne, puisque pour que l'économie fonctionne, il faut que la monnaie circule. Si elle ne circule pas, ça ne sert à rien, et ce qui est encore mieux pour nous, c'est qu'elle circule sur notre territoire, et c'est l'objet d'une monnaie. Donc il y a en même temps une dimension d'éducation populaire à une monnaie, c'est-à-dire que le citoyen, il va réfléchir pas seulement pour sa consommation personnelle, mais il se dit l'argent, ça sert à quoi ? Quand je le mets à la banque, il va où ? Est-ce qu'il reste sur le territoire ? Est-ce qu'il part pour la spéculation ? Les banques et dans le système mondialisé ? Ou bien est-ce que vraiment l'argent que je possède, il est utilisé localement pour développer l'économie et une économie avec une éthique humaine ? Un respect de l'environnement et qui prépare déjà, on a évoqué la transition, qui prépare la société de demain.
Quelle part du budget ça représente pour un usager en général quand on va dans une banque, on demande un prêt, vous savez, il y a les trois tiers, donc un tiers pour le loyer, un tiers pour les factures et puis un tiers pour dépenser, manger, etc. Est-ce que ça peut représenter un tiers du budget d'un consommateur, cette somme
de, j'allais dire, c'est le consommateur qui choisit.
Oui.
D'autant plus qu'on peut aujourd'hui se faire payer en monnaie locale. Et puis, il y a un travail du réseau national pour faire en sorte que les collectivités locales puissent commencer à l'utiliser. Alors, ce n'est pas tout à fait encadré, il y a un vide dans la loi. Donc, dernièrement, il y a la ville de Bayonne qui a eu un gros travail et puis des petits ennuis au tribunal administratif avec l'État. Ils ont réussi à se mettre d'accord pour trouver un système et faire en sorte qu'une collectivité, en passant par l'association de gestion de la monnaie, puisse utiliser donc la monnaie locale. Sinon, ce n'était pas possible.
D'accord. Ça représente combien de lignières ? À combien s'élève votre fortune ?
Nous sommes une monnaie à l'image du territoire du Berry qui n'est pas très riche. Donc, on est plutôt autour d'une dizaine de milliers de lignières, alors que le Chco en est déjà à plus d'un million de Chco, donc en circulation. Et donc, voilà, chaque monnaie, en fonction de son territoire, en fonction de sa durée de fonctionnement déjà, à des montants différents et en fonction aussi du nombre d'habitants qu'il y a sur le territoire. Et je pense qu'on pourra demander à mon voisin où est-ce qu'il en est aussi de la monnaie locale sur son territoire.
Oui, on va poursuivre ce tour de table. Alors, j'ai les prénoms, mais je n'ai pas les visages qui vont avec. J'ai Gérard Rivaud et Bernard de la Valette. Qui est Gérard Rivaud ? Oui, voilà. Qui représente donc le passeur monnaie locale de Châteauneuf. Associé d'ailleurs au locomotivé, c'est bien ça. Comment ça se passe à Châteauneuf-sur-Loire ?
Alors, par rapport à ce que Dominique a dit, nous sommes un petit territoire. Hein. C'est clair que par rapport à deux départements comme le Cher et l'Indre, notre territoire, c'est deux communautés de communes qui sont la communauté de communes des Loges autour de Châteauneuf-sur-Loire et la communauté de communes du Val de Sully autour de Sully-sur-Loire.
Donc, ainsi globalement, que les villes de Nibel et Trénoux.
Oui, voilà, avec deux villes supplémentaires, Nibel et Plénoux. Et donc, ça fait 42 communes pour environ 70 000 habitants. Voilà. Donc, le territoire est beaucoup moins important. Donc, nous avons lancé notre monnaie locale qui s'appelle le Passeur il y a exactement un an, hein, une année. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on avance doucement. On a environ une trentaine de prestataires, un peu plus, et puis une centaine de familles adhérentes. Donc, aujourd'hui, on avance doucement, clairement. Et l'objectif, clairement, hein, c'est essayer de faire en sorte que les gens achètent local, hein, surtout, et puis c'est une démarche citoyenne, hein, clairement, hein, vis-à-vis des prestataires, justement.
Alors, justement, on va vous tendre un micro, madame. Vous êtes madame, vous auriez une madame question.
Si vous créez de la monnaie, là, vous avez créé combien ? Ça représentait combien en euros ?
On a créé de la monnaie, oui. On a un fonds des coupons.
Mais quoi, 100 000 euros, vous ne savez pas ?
Ça doit être aux environs de 100 000, hein, je crois. Ouais. Hein.
Alors, si tout le monde crée de la monnaie comme ça, vous vous rendez compte ce que ça va faire ?
Elle n'est pas toute en circulation, c'est bien clair. Aujourd'hui, on a environ 4 000 euros en circulation. Hein.
Ouais. Je ne comprends pas vraiment votre question, madame. C'est-à-dire ?
Eh bien, je pense que si chaque commune ou chaque département, ça n'existe plus, mais chaque crée une monnaie à eux, c'est de la monnaie qu'on crée artificiellement non. par rapport à l'euro.
Une petite explication, très simple. C'est une monnaie complémentaire, donc déjà, ce n'est pas en concurrence de l'euro. L'euro continue à être la monnaie nationale. Et puis aujourd'hui, il faut savoir quand même que la monnaie que vous utilisez, quand vous allez à la banque, elle est créée complètement par une dette que fait la banque et elle ne sort pas de quelque chose de concret. Donc ce n'est pas différent. Et en plus, nous, on a un fonds de garantie, puisque quand on va faire un échange de monnaie locale, les euros qu'on apporte, ils sont mis dans une banque éthique qui est la NEF, on en a parlé tout à l'heure, et ce fonds de garantie, il permet que si le projet s'arrête, les personnes vont récupérer leurs euros. Donc en fait, il y a un dédoublement de la monnaie. De toute façon, la monnaie, la question de la monnaie, le papier de la monnaie, le coupon, n'importe quoi, c'est une question de confiance. C'est pas quelque chose de concret, on n'est pas dans un système d'échange d'or, ou etc. C'est plus
si tout le monde le fait partout, la confiance, elle disparaîtra.
Alors, on va aborder le thème de la confiance, par exemple. À quel type de prestataire vous faites confiance, par exemple? Vous disiez qu'il fallait répondre à certains critères pour pouvoir être prestataire.
Bon, il y a une charte d'éthique.
Alors, monsieur Gérard Arrivaud, oui. Dépasseur.
Pour les prestataires et pour les adhérents à l'association, puisque au départ, il faut être adhérent à l'association pour utiliser le passeur, il y a une charte d'éthique que les gens signent hein, et qui s'engagent à suivre. Et pour revenir sur le point précédent, hein, clairement, on a la monnaie que l'on crée, c'est-à-dire on a un passeur, on l'a en double un fonds de réserve qui est aussi à la NEF, qui correspond exactement au montant qui est en circulation. Hein. Donc, clairement, il n'y a pas de création de monétaire. Voilà.
Il n'y a pas de change, par exemple.
Il n'y a pas de change. Voilà, très bien. Alors, certaines monnaies ont un taux de change au niveau... On change 1 euro pour un passeur, mais après, il y a un certain nombre de prestataires qui ont trop de passeurs et donc qui rechangent en euros. Il y a des monnaies qui ont un taux, ils récupèrent pour l'association. Hein, donc, ils ne redonnent pas un taux de conversion, ils ne redonnent pas 100 euros pour 100 passeurs. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas de taux de conversion.
Alors, oui, je vous avais posé une question. Je voulais savoir qui sont les professionnels ou les prestataires. Alors, à qui vous faites confiance.
Les professionnels, c'est un peu tout, hein, globalement. Et clairement, c'est à la fois des maraîchers, c'est à la fois des commerçants, hein, boulangeries. Je réfléchis en même temps. Oui, dans le bien-être, pas mal. Ouais. Et donc, je ne sais pas ce qu'il... Bon, on a... Ça va quand même largement, hein, c'est assez large.
Et donc, eux, ils retransforment après cette monnaie en euros? Non? Comment ça se passe?
C'est pas l'objet. L'objet, comme je disais, c'est de faire réseau. Et ça dépend évidemment des structures. Nous, par exemple, il y a les structures culturelles qui sont adhérentes de la Linière. Je pense à la scène nationale de Châteauroux. Évidemment, l'essentiel de ces dépenses, ça va être d'acheter les spectacles. Les spectacles, ils ne vont pas être achetés sur le territoire. Et donc, évidemment, elle va avoir... plus de conversion qu'éventuellement un espace bio qui va avoir des producteurs qui peuvent être payés en linéaire. Et puis après, donc, certains peuvent les utiliser pour se payer eux-mêmes ou payer leurs salariés qui les acceptent, puisque c'est légal. Et je voulais rajouter que par rapport à la confiance, j'insiste là-dessus, franchement, je crois que les utilisateurs qui ont des unités de monnaie locale, ils ont plus confiance dans une gestion qui est citoyenne qu'aujourd'hui dans les banques telles qu'elles fonctionnent. Parce que je crois qu'avec les banques, on sait ce que ça a pu donner. Et les projets de monnaie locale sont beaucoup apparus suite à la crise financière de 2008, qui a vraiment déclenché le développement de ces monnaies locales un peu partout, et pas uniquement en France. Justement parce que les citoyens, ils voulaient avoir... confiance dans leur monnaie et faire en sorte que cette monnaie, elle serve vraiment à l'économie et pas qu'elle soit utilisée dans la spéculation ou bien blanchiment d'argent ou bien des ventes d'armes ou d'autres choses pour lesquelles ils n'ont pas envie que leur argent serve.
Et puis on l'a évoqué tout à l'heure, justement, les circuits courts, le pétrole. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi dans les échanges entre humains aujourd'hui qui nuisent à la planète et puis même à notre avenir. Est-ce qu'on pourrait, ça coûte rien, ça coûte aucun passeur, ça coûte aucun linéaire, excusez-moi, c'est celui d'imaginer, voilà, on a le droit de rêver. Je vais pas m'en priver, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, sur un salaire, on puisse entièrement, à long terme, évidemment, je rêve pour l'avenir, qu'on puisse totalement se servir de cette monnaie locale pour payer son loyer, son électricité, son eau.
Je crois qu'au niveau légal, on ne doit pas pouvoir payer la totalité du salaire. C'est comme les paiements en nature. C'est assimilable à un paiement en nature, ce que peut demander un salarié. Donc, je n'ai pas en tête le pourcentage, mais il doit y avoir, ça doit être décidé dans le contrat de travail. Mais peut-être que d'autres qui sont plus juridiquement plus à même que moi de répondre. Après, pour le reste, hein, quand on évoquait un certain nombre de services, nous, les prestataires, c'est ce qu'on a dit, ils doivent respecter une certaine éthique. Alors, payer son électricité, payer son essence, que je sache, je ne pense pas que Total, les pétroliers ou même EDF aujourd'hui ne rentrent dans l'éthique de prestataire de monnaie locale. Donc
si
pour l'instant, ça me semble compliqué.
De l'électricité renouvelable.
Eh bien voilà, pourquoi
pas. Par exemple, pourquoi pas?
Exactement. Et il y a un travail en ce moment, puisque je rentre des rencontres nationales des monnaies locales, pour faire en sorte qu'on puisse aussi, quand on est adhérent du réseau, utiliser les autres monnaies locales sur leur territoire. L'objectif, ce n'est pas qu'on s'échange des monnaies entre les différents territoires, parce que sinon, ça serait une monnaie nationale, ça n'a plus de sens. Mais par contre, moi qui suis adhérente de la Linière, j'adhère au manifeste, et en tant qu'adhérente, si je vais en Bretagne, je vais pouvoir aller dans un comptoir de change et puis dire je change mes euros contre des éoles, contre des Galeco, contre, voilà, et je vais consommer sur place avec de la monnaie locale du territoire. Directement, ça me donne accès à tout un tas de producteurs ou de services qui ont une éthique. Et peut-être que si je veux faire du tourisme avec une valeur humaine, environnementale, tout de suite, j'ai accès au réseau.
D'accord. Donc tout à l'heure, il y avait Alice Exner qui nous avait parlé des trois grands principes, la transparence, l'éthique et le pouvoir d'agir. On pourrait peut-être ajouter celui de la confiance.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point important, c'est la confiance. Hein. Et donc là, avec la monnaie locale, les gens ont confiance. Hein. Et il y a une confiance qui s'installe entre les prestataires et puis les utilisateurs. Ça, c'est très important.
Je réserve ma dernière question pour vous quatre, puisqu'on va poursuivre avec deux autres invités. Il y a M. Bernard de Lavalette du système d'échange local Abrélien et Nathalie Pauger qui représente la monnaie complémentaire d'Orléans, la Glore. On va commencer par la Glore qui existe déjà. Qu'est-ce que la Glore?
Alors, c'est pas une monnaie locale complémentaire, c'est un système d'échange. Parce que la Glore n'est pas indexée sur l'euro. Il a été créé à Orléans en transition en 2016, donc ça fait plus de 3 ans qu'il existe. En fait, la Glore invite chacun à dessiner monnaie. Donc on est vraiment aussi là dans la réappropriation du pouvoir et la confiance en ses propres talents de création. On a un petit réseau qui se développe, beaucoup d'utilisateurs. La Glore nous échappe, il a quelque chose d'un peu incontrôlable. Je dirais que la Glore, c'est quelque chose qui vient se mettre dans les brèches. C'est complémentaire à d'autres choses. Ça ne s'oppose pas en fait à une monnaie locale complémentaire. Ça pose et ça vient à certains endroits, dans les relations, quand le truc n'est pas possible. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas pour symboliser l'échange, une valeur qu'on n'a jamais réussi d'ailleurs à donner à toutes les monnaies qu'on a essayé d'indexer sur l'or ou sur l'euro, mais
Ça peut symboliser l'échange, mais ça peut aussi avoir une autre fonction que la symbolisation. En fait, c'est assez complexe de résumer la Glore en quelques mots. C'est quelque chose qui s'expérimente. Et en tout cas, moi qui l'expérimente beaucoup et je connais d'autres gens qui le pratiquent, c'est une vraie source de joie. En fait, c'est drôle parce que j'aimerais beaucoup qu'on ait une monnaie locale complémentaire à Orléans en transition ou à Saint-Jean-de-Brie en transition, peu importe qui le fera. Et moi, je n'ai pas l'énergie de ça parce que je m'ennuie quand j'entends parler de finance ou d'économie. Et avec la Glore, je m'amuse énormément. Voilà. Mais ce n'est pas qu'un amusement. Il n'est pas indexé sur l'euro. En fait, quelque part, il va un peu encore au-delà. Il dit, mais vous avez besoin de vous adosser sur l'euro? Eh bien, pas nous. Et on fait des échanges comme ça, très sérieux. Hein.
Des réactions ?
Non, mais c'est clair. C'est clair, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et donc, ça va un peu plus loin parce que ça permet de faire plus d'échanges et des échanges beaucoup plus entre citoyens. Hein. Donc, c'est beaucoup plus. La confiance est encore plus grande, quoi.
D'accord. Bon, on va rajouter le mot d'échange à celui de confiance.
Et je voudrais pas dire que c'est parce qu'on s'occupe de monnaie locale que c'est pas forcément joyeux, hein, parce que ça nous donne l'occasion de rencontrer plein de monde quand même. Et en plus, c'est des gens qui en général sont très sympathiques. Ils font de la permaculture, ils font aussi de la culture. Et bah, quand on va les voir, en fait, on voit que des choses sympas. Donc, c'est pas forcément ennuyeux de s'occuper du réseau. Parce que c'est. Voilà, je n'ai pas. Les questions financières, elles peuvent être liées aussi à plein de choses plus agréables que ce qu'on veut laisser paraître parfois quand on parle finance.
Qu'est-ce qui vous ennuie, Nathalie Pogé, dans l'économie et la finance ?
Le langage. Enfin, dès que j'entends certains mots, mais ça doit être mon histoire personnelle qui se réveille. Hein, mais,
Nasdaq, CAC 40.
Je épargne, enfin, je utilisateur, usager, enfin, je sais pas. Et très vite, mon cerveau décroche, alors qu'avec la Glore, il est totalement éveillé, on fait des dessins. Et en même temps, on est vraiment dans une création du moment de l'échange, parce qu'un échange avec Aglore, on n'est jamais dans l'exigence. Je ne vais pas me pointer avec un Aglore en disant à quelqu'un, bah voilà, j'ai dessiné 10 Aglores cette nuit, je veux ça. C'est toujours l'objet d'un échange. Donc on est aussi dans la création sur le moment, en échangeant avec l'autre et en se disant, bah on va s'entendre là-dessus. Donc quelque part, ça se réfère un peu au truc, ça complète le truc. Enfin, en tout cas, l'Aglore, c'est humble et ça vient un petit peu partout. Voilà.
Et on va poursuivre avec une autre initiative locale, abrésienne d'ailleurs, le système d'échange local abrélien, dont va nous parler M. Bernard de la Valette. Bonsoir.
Bonsoir. Effectivement, le système d'échange abrélien fonctionne comme, un peu comme la Glore, sans contrepartie financière. On a mis en place une unité de compte qui s'appelle l'abrélien, qui permet de financer des échanges entre les membres de cette association, et voire d'aller beaucoup plus loin, puisque on peut parfaitement échanger avec d'autres personnes en France, et le système d'échange local est présent dans 650 associations à peu près en France, ce qui fait qu'on a un pouvoir d'échange de l'ordre de 20 à 30 000 personnes au travers de ce système. Et encore une fois, je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire ma collègue sur la Glore, il n'y a pas de contrepartie bancaire. Et pour ça, on est peut-être un petit peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure autour des monnaies, puisque on considère, le mouvement des selles considère que le lien est plus important que le bien et clairement opposé au système bancaire.
Merci. Est-ce qu'on peut parler vraiment de monnaie ? Enfin, je pense à vos deux cas. Pourquoi avoir choisi le terme de monnaie ? Alors, oui, c'est vrai que la Glore doit se dessiner sur la taille d'un billet. Après, on le dessine comme on veut. Il peut ressembler ou non à un billet. Il n'y aurait pas un nouveau terme à inventer, non ? Parce que la monnaie, forcément...
Unité de compte.
Unité de compte,
oui. Unité de compte.
Pardon.
Ou système d'échange.
Système d'échange.
Alors le papier, il est un peu vieux. On a vraiment peaufiné notre discours et maintenant on ne dit plus qu'on est une monnaie locale complémentaire parce que c'est faux. on est vraiment un système d'échange.
D'accord. Je tenais à faire la précision. Voilà, on peut parler de système d'échange et de monnaie locale. Voilà, ce sont deux choses qui ne sont pas opposées et complémentaires, bien évidemment. On va bien. Oui, alors il y aurait une question dans le public, une question de Rémi Poignant.
Justement, est-ce que le système d'échange local, est-ce que c'est pas la première pierre pour bâtir une monnaie locale ? Justement, est-ce que à la Linière, est-ce qu'à Châteauneuf-sur-Loire, vous avez commencé par un système d'échange local ?
Non. Non. Pour le passeur, on n'a pas commencé par un système d'échange local. Donc on est parti directement sur une monnaie locale. On est resté sur la monnaie locale complémentaire. Hein. Voilà, c'était l'idée au départ. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez complémentaire. Hein, et donc Le système d'échange tel qu'il est fait par les monnaies, c'est vraiment un système d'échange complet, alors qu'une monnaie locale, ça reste quand même une monnaie, hein, clairement une monnaie.
Ce que je peux ajouter peut-être, c'est que je pense que dans un système d'échange, ça va être entre des gens qui partagent des valeurs communes pour pouvoir se comprendre. L'objectif de la monnaie locale, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un outil d'éducation populaire. Et grâce à ce support, notre objectif, c'est aussi d'aller vers des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que nous, mais quelque part pour les faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et se tourner vers des personnes qui vont être amenées à réfléchir sur le rôle de l'argent, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Par exemple, on peut intervenir en milieu scolaire. Et auprès des jeunes, enfin, on a des jeux qui existent pour leur faire prendre conscience du rôle de l'argent, parce que les jeunes, notamment les ados, sont très marqués par le cadre général de l'argent et qu'il faut de l'argent pour être heureux quelque part. C'est très codifié quand on leur pose cette question-là. Et donc, ça permet de leur faire comprendre un peu que l'argent, il a un rôle dans l'économie, il a un rôle dans l'évolution de la société. Et c'est vraiment, je pense, cet outil-là qui va peut-être permettre de faire prendre conscience à des gens aujourd'hui qui ne se posent pas la question. Ah oui, ah, l'argent, c'est quand même important, il faudrait qu'on s'en occupe. Et pour ça, le pouvoir d'agir, pour moi, la monnaie locale, c'est une possibilité d'agir vraiment de façon concrète.
Merci à vous. On va aborder la deuxième thématique de cette émission, à savoir l'épargne solidaire et le financement participatif. Nous retrouvons Alice Huxner du CRESOL. C'est quoi le CRESOL ?
CRESOL, c'est le Centre Réseau Économie Solidaire. C'est une toute petite association qui essaie de promouvoir l'économie solidaire sur le périmètre de la région Centre. Et donc, on fait à la fois de la sensibilisation à la question de l'économie solidaire. On encourage le pouvoir d'agir en accompagnant des groupes sur la conduite de projets, sur la conduite de projets solidaires et des porteurs de projets d'initiatives solidaires. Et on est aussi une école de la coopération parce que qui dit économie solidaire dit forcément travailler ensemble.
Alors le mot solidaire est souvent revenu. Solidaire de quoi, de qui ?
Alors, ben voilà, c'est plutôt une valeur, en fait, la question de la solidarité, sur le fait que, par exemple, une initiative solidaire, une organisation qui se veut solidaire et qui a un rôle dans l'économie, elle va discuter aussi bien avec ses clients qu'avec ses fournisseurs pour essayer de savoir si l'échange, il est équitable, s'il est bien vécu de part et d'autre. Donc, il y a toujours la prise en compte de l'humain, et de l'humain dans son environnement, donc aussi de la planète, dans les échanges. C'est une économie qui tient compte vraiment des acteurs qui la composent et qui la font vivre.
Comment ça fonctionne ?
L'association ou l'économie solidaire ?
L'épargne solidaire.
Ah, l'épargne solidaire. Donc, par rapport aux trois critères que je vous ai donnés tout à l'heure.
Transparence, éthique, pouvoir d'agir.
Voilà. Concrètement, on a bien vu avec une monnaie locale, la transparence, c'est que tous les adhérents vont être invités. Donc, puisque la monnaie locale complémentaire, elle est sous forme associative, que les personnes qui s'en servent sont adhérents, doivent adhérer pour pouvoir se servir de la monnaie. Ils sont invités à l'Assemblée générale chaque année et donc ils vont comprendre exactement comment a fonctionné l'association, avec quels moyens elle a marché, quels bénévoles se sont investis pour faire quoi. Enfin, voilà, le travail d'une association. Alors après, comme dans toutes les organisations, il y a des associations qui sont plus ou moins pédagogues avec leur mode de fonctionnement, mais en tout cas, il va y avoir une transparence très forte sur la façon dont l'argent circule et comment il est utilisé. Donc, pour ce qui est de l'éthique, par exemple, c'est intéressant dans les monnaies locales aussi, on peut reprendre cet exemple-là, puisqu'il y a des prestataires qui rentrent en fait dans la charte de la monnaie qui a été définie par l'association. Et donc, chaque prestataire s'engage à un certain nombre de choses vis-à-vis de l'homme et de la planète. Donc, ce qui est intéressant pour l'utilisateur de la monnaie, c'est que, quelque part, là, il est sûr en utilisant sa monnaie qu'il la fait circuler dans les bons rouages, en fait, qui contribuent à une économie pour laquelle qui répond à ses propres valeurs. Et pour le troisième principe, donc le pouvoir d'agir, encore une fois, c'est le citoyen qui va choisir de se servir de la monnaie, qui va éventuellement à la caisse dire « Est-ce que je peux utiliser la monnaie locale quand elle n'est pas utilisée ?» avec un petit air malicieux pour faire en sorte que l'organisation dans laquelle il est essaye de se renseigner et peut-être un jour permettre l'utilisation de la monnaie locale.
Un exemple concret d'un placement solidaire ?
Il y en a plein, donc il y a la Cigale là, donc les clubs d'investisseurs de gestion alternative de l'épargne solidaire. Donc là, c'est vraiment un fonctionnement très spécifique. Ça date des années 80, je crois. Donc c'est des petites associations qui s'appellent des clubs qui réunissent des épargnants qui décident. Donc c'est maximum 20 personnes. Qui décide d'un montant d'épargne chaque selon une régularité mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, et ensemble en fait donc ils réunissent un petit capital et ce capital ils vont choisir de l'investir dans une organisation naissante ou qui a besoin d'un développement, donc un porteur de projet individuel ou collectif, donc un créateur d'initiative ou d'activité qui a besoin d'un petit capital pour aller chercher un plus gros capital à la banque, par exemple.
Pour avoir un exemple concret.
Je connais donc une association qui s'appelait les Ouvrières de la Reine, qui donc a demandé au club Pollen, je crois. Enfin, je suis pas sûre là si je confonds, mais. En tout cas, ils avaient besoin de capital pour pouvoir faire fonctionner donc ils avaient une salariée, donc pour faire tourner la boutique et par rapport aux services qu'ils proposaient. Donc c'était une association qui proposait des services pour les futures mamans et les très jeunes mamans, donc les mamans qui avaient des petits bébés, donc des choses autour du bien-être, de l'accompagnement. C'est pas du tout quelque chose de médical, mais c'était tout l'ouverture à cette nouvelle vie, quoi. Non, c'était plutôt
l'autonomie, voilà. Des choses comme ça.
Non, c'était pas du soin.
Non, même
c'était
pas
plutôt quelque chose autour des nouvelles pratiques, l'apprentissage, les couches lavables, tout comme ça, le maternage, les écharpes, etc.
Merci. On va poursuivre avec deux autres invités. Il y a Alexis de Villancourt et Lucien Jaillet. Je vais vous poser la même question. Alors, on va plutôt. Je vais commencer par Alexis de Villancourt, France Active, Centre Val-de-Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est France Active, Centre Val-de-Loire ?
Bonjour. Alors, France Active, c'est un réseau national associatif qui est divisé en associations territoriales par région et qui fait de la finance solidaire. Donc, concrètement, comment est-ce que l'on intervient ? On a grosso modo deux activités. D'une part, le financement de la création de TPE, donc petite entreprise, par des personnes éloignées de l'emploi et donc en situation de précarité. Et par ailleurs, le financement de projets et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et plus largement, de ce qu'on appelle chez nous des entreprises engagées. Je pourrais revenir un peu plus tard en détail sur ce qu'on entend par engagé. On intervient par le biais de deux outils financiers principalement. Le premier, c'est la garantie bancaire. La vocation historique de France Active, c'était, on n'est pas une banque, on est simplement un établissement financier, donc ce n'était pas de se substituer aux banques, mais c'est de donner accès au crédit bancaire à des personnes qui n'y auraient pas accès. Donc la garantie bancaire, c'est la banque qui prête, mais France Active, parce qu'elle veut soutenir ce projet, prend une part du risque de la banque en apportant sa garantie. Ça a plusieurs vertus. La première, c'est de rassurer la banque et donc de faciliter l'octroi d'un crédit. D'une part, parce qu'il y a une double expertise qui est celle de France Active, ça réduit le risque de la banque. Et aussi, France Active se substitue du coup par sa garantie à une éventuelle autre garantie que la banque pourrait demander. Donc ça, c'est la garantie bancaire. Et par ailleurs, on finance aussi, nous, en direct, des structures de l'économie sociale et solidaire à tout stade de vie, en création, en développement et puis à ces stades de changement d'échelle, par la mise en place de prêts participatifs, donc qui ont pour vocation de renforcer les fonds propres de la structure. Voilà, donc c'est des prêts plutôt à échéance court ou moyen terme, principalement moyen terme. Et on va aussi jusqu'à proposer une activité d'investissement, dans certains cas particuliers, en direct dans des structures de l'ESS. Donc ça peut prendre différentes formes, mais ça peut aller jusqu'à une prise de participation au capital de structures qui sont socialement innovantes.
C'est pas un peu risqué quand même comme établissement ? Vous ne correspondez pas trop au monde, enfin l'idée qu'on se fait de la finance à prêter à des personnes qui n'ont pas trop d'argent ? par exemple, je ne sais pas.
Alors en effet, on est un complément, disons, à la finance classique. Ce qui peut être intéressant, c'est de vous expliquer aussi comment est-ce qu'on est financé. Ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on est prêt à prendre plus de risques. France Active, c'est un établissement parapublic. On est financé en partie par des fonds publics, essentiellement notamment la Caisse des dépôts. Et par ailleurs, on a un fonds d'investissement France Active, qui collecte de l'épargne solidaire des Français. Il y a 1 million de Français qui donc collectent sur de l'épargne solidaire, principalement via de l'épargne salariale. Maintenant, les grandes entreprises sont obligées de proposer sur les produits d'épargne salariale, donc les PERCO, les plans d'épargne retraite, etc., des fonds solidaires. Qui viennent notamment alimenter le fonds de France Active. Donc c'est des Français qui sont soucieux de ces questions-là et qui souhaitent investir sur des fonds solidaires qui en effet présentent des rendements moindres, mais qui financent des projets voilà, qui répondent aux 3 critères qu'on a redit, éthique, transparence et pouvoir d'agir.
Et on va terminer avec Lucien Jaillet qui représente l'ANEF. L'ANEF en quelques mots.
L'ANEF, en quelques mots, je crois que c'est... Je vais parler de mon expérience. C'est d'abord des rencontres humaines. Je crois que c'est, comme toute société coopérative, il y a bien sûr des sociétaires, mais il y a à l'intérieur de cette coopérative, qui est humainement une petite structure, un système qui fait qu'il y a des professionnels de haut niveau organisé en délégation par rapport à différentes problématiques bancaires. Mais il y a en plus, parmi les sociétaires, ce qu'on appelle des groupes de sociétaires actifs bénévoles qui sont présents sur le terrain, donc qui font la liaison entre les porteurs de projets et les épargnants et les structures professionnelles et pour déterminer la nature, en termes d'éthique, de porteurs de projets, etc. L'autre aspect, je pense que c'est aussi la rencontre entre un porteur de projet fermement ancré dans la transition et un épargnant qui a envie de participer efficacement à la transition en déposant son argent sur soit à travers un système de financement participatif comme ZEST, soit à travers son livre d'épargne, soit à travers son compte épargne.
D'accord. Et donc, vous soutenez de nombreux projets, associations, investissements, épargne, comme oui. Une banque normale, en fait.
Comme une banque presque normale. Mais pour prendre deux exemples locaux récents, puisque pour les avoir rencontrés récemment, le Biocoop de Chessy qui vient d'ouvrir, si vous le fréquentez, ce n'est pas tout à fait un magasin normal. Je crois que la façon dont il a... d'être fermement engagé dans la transition, c'est-à-dire de travailler avec des producteurs locaux, le type de démarche qu'il a avec les clients, on sent la différence quand on rentre dans ce magasin. Même chose avec le brasseur de la brasserie du Vouret de Mardier, qui n'est pas loin non plus. Il a la totalité de sa production jusqu'au hublon qui est en production bio, et donc il a le bio ancré au corps pour produire sa bière.
Merci. Je viens de me souvenir que je n'avais pas posé une question que je voulais poser tout à l'heure à mes invités. Et vous voyez, je n'en perds pas le fil. J'en reviens à la monnaie locale, donc toujours avec Dominique Fleurat et Gérard Arriveau. Je voulais savoir quelles étaient les limites d'une monnaie locale, de l'installation. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer en voulant mettre en place une monnaie locale?
Ah, c'est les limites dans ce sens-là. Les limites, quelque part, sont celles que veulent bien se donner les bénévoles, au départ. Donc, chaque monnaie s'organise comme elle le souhaite, c'est une monnaie citoyenne. Après, certaines ont fait le choix d'aller aussi se tourner vers les collectivités locales pour trouver des subventions et avoir des salariés. D'autres, non. C'est tout un débat à l'intérieur du réseau des monnaies, puisqu'elles souhaitent rester totalement indépendantes. Et à partir du moment où on demande une subvention, que ce soit à telle ou telle collectivité ou à une autre structure institutionnelle, la question, c'est aussi de rester maître de son projet. Voilà, tout le débat est là. C'est pas pour rien que le mot citoyen a été rajouté. Il existe des monnaies locales complémentaires qui sont adossées plus... au mouvement SOL, où il y a des financements où ils sont portés par les collectivités locales, avec des bons côtés et des moins bons côtés. Si je prends l'exemple du Galeco qui est sur l'Ille-et-Vilaine, où le département s'était engagé à fond dans le soutien de la monnaie et avait donc financé les salariés, petit changement parfois d'objectifs politiques pour X et X raisons, les financements s'arrêtent, les salariés sont licenciés et les bénévoles n'ont pas eu l'habitude d'aller sur le terrain, de faire le travail, de fonctionner, etc. Et du coup, il y a un petit temps mort dans la monnaie. Et donc, il faut redémarrer le projet parce que le travail sur le terrain est très important. Et les liens avec les utilisateurs comme avec les prestataires, il faut qu'ils soient faits dans la durée. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile pour un projet de monnaie locale. C'est au départ, voilà, on a travaillé le terrain, c'est lancé, tout est beau, c'est formidable. Nous, on a lancé la monnaie locale en même temps que les rencontres nationales, les 13e rencontres. Puis après, dans la durée, il faut continuer le travail, il faut pouvoir transmettre aussi des connaissances. Alors après, il y a des citoyens qui sont très engagés, qui ont des grandes compétences et qui trouvent des outils pour pouvoir gérer plus facilement. Des gens qui vont être des web développeurs, qui vont travailler avec les outils numériques pour faciliter la tâche, ou bien qui vont avoir des compétences juridiques avec tout le travail qui se fait en ce moment auprès de l'État, auprès des parlementaires, parce que la loi sur l'ESS, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. S'il y a eu des parties, des articles sur les monnaies locales ou sur les associations, c'est parce que derrière, il y a des actions de ceux qui sont engagés dans les projets. Et donc, il y a aussi ce travail-là. Et aujourd'hui, ce travail, il est fait en direction des collectivités locales. On a des échéances bientôt qui vont donc concerner les monnaies au premier chef, puisqu'on est dans la proximité.
Oui, je vais confirmer ce que Dominique vient de dire. Les limites, c'est vraiment les limites au niveau bénévolat. Hein. Bénévolat à la fois pour organiser l'ensemble, hein, c'est clair, il faut avoir beaucoup de bénévoles, beaucoup de bras, hein, c'est pas simple. Et puis sur ensuite, aller sur le territoire. Hein. Donc aller sur le territoire, il faut aussi avoir des relais un peu partout sur le territoire, et ça, c'est pas facile à organiser. Hein. Et puis ensuite, il y a la gestion proprement dite de cette monnaie, et ça aussi, c'est un problème bénévolat, c'est un problème aussi de logiciel, de comment mettre en place des logiciels qui nous permettent de gérer le mieux possible et tout. Et tout ça, c'est pas simple, donc aujourd'hui, eh ben, on arrive à s'en sortir, mais difficilement. C'est clair qu'il y a un problème au niveau bénévolat. Et puis les deuxièmes limites, c'est les limites financières, évidemment. Les monnaies locales, c'est des associations qui sont gérées, qui les gèrent, et donc ces associations, ils n'ont aucune rentrée d'argent, hein, puisque l'argent qu'on récupère pour créer des passeurs en euros, c'est sur un fonds de réserve, et donc on n'a aucune réserve financière derrière. Donc il y a une limite très forte au niveau du financement.
Monsieur Jaillet de la Nef et Monsieur de Villancourt de France Active Centre-Val de Loire, votre regard sur les monnaies locales ?
Alors moi je dirais que les monnaies locales, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais sa première vertu, c'est justement, parmi les trois qu'on a cités, pour moi, c'est le pouvoir d'agir, la reprise en main du pouvoir d'agir. Le thème de la soirée, c'était comment consommer autrement, sur le sujet de l'argent, mais peut-être que quand on entend ce sujet-là, vous pensez tous en premier à, en effet, ce geste qu'on a, militant, de consommer un produit plutôt qu'un autre, parce que l'on pense que le produit qui vient de telle entreprise qui pollue ou qui fait travailler des salariés dans des conditions difficiles ou méconnues dans des pays étrangers, etc. Et donc je fais un acte militant en boycottant ce produit et en prenant celui-là plutôt qu'un autre. En réalité, comment se finance une entreprise et comment se financent ces grandes multinationales ? En effet, par de l'autofinancement, donc par les résultats qu'ils dégagent et donc par leur chiffre d'affaires. Et donc, quand on fait cet acte militant de ne pas acheter leurs produits, ça impacte leur chiffre d'affaires. Mais pour le reste, elles se financent par de la dette et par de l'investissement. Donc cet argent, d'où vient-il ? Des banques et donc de nous. Donc c'est vraiment une responsabilité que de choisir quoi faire de son épargne. Et les monnaies locales, c'est aussi un moyen comme ça de reprendre un peu la main sur son pouvoir d'agir sur le volet financier.
Oui, je crois que c'est d'abord le circuit court de l'argent, c'est d'abord le lien entre celui qui va faire son achat et en même temps ce lien il est naturel quand on le connaît, mais en même temps, je crois que Dominique le disait tout à l'heure, il permet aussi de franchir cette étape de la méconnaissance de l'autre, le fait qu'il accepte la monnaie locale, évidemment, on revient à ce que c'était tout à l'heure, à la confiance et aussi à la connaissance réciproque.
On peut rajouter par rapport à la nef, presque toutes les monnaies locales mettent leur fonds de garantie à la nef. Et il y a eu tout un travail de collaboration entre le réseau des monnaies locales citoyennes et la NEF, de façon à ce que la banque, la NEF, puisse accompagner des projets que les monnaies locales peuvent lui proposer. Et donc un partenariat par rapport aussi à du soutien de projets, pas seulement donc utiliser ses propres unités de monnaie locale, mais aussi utiliser les euros de la banque, la NEF, pour soutenir des projets. Donc voilà, il y a un travail en commun qui est réalisé dans ce domaine.
Alors, je vais essayer de synthétiser cette émission. Donc, la question était comment faire et évoluer mes pratiques de consommation pour rentrer dans la transition. Je pense déjà qu'il va falloir commencer par sortir de chez soi, aller vers les autres, faire ensemble, comment dire, se fédérer, faire association. Ce sont les associations, d'ailleurs, que vous rencontrerez en premier lieu, d'un point de vue local, hein, que ce soit pour le passeur ou alors pour la lignière dans d'autres départements. Il va falloir faire aussi faire avec donc les prestataires locaux, quels que soient les services qu'ils peuvent proposer. Il va falloir faire confiance, il va falloir croire en l'échange, il va falloir faire lien, je reprends des mots qui sont revenus, et cela en suivant trois grands principes que sont la transparence, l'éthique et le pouvoir d'agir. Je crois que c'est le pouvoir d'agir qui a plus retenu mon attention, parce que ce terme est souvent revenu dans la bouche des uns et des autres. L'euro dans tout ça, est-ce que quand même c'est pas un petit peu limité l'épargne solidaire, les monnaies locales, votre regard sur l'euro, parce qu'il n'y aurait pas une sorte de dédoublement de personnalité. On essaye de développer une monnaie locale. En même temps, on sait très bien qu'on ne peut rien faire face à ce système international.
C'est pas parce qu'on utilise une monnaie locale qu'on va arrêter.
De monnaie cotée en bourse, oui, bien sûr.
On ne va pas arrêter après l'action politique pour la suite. Enfin, je veux dire, j'allais dire du local au global. Voilà, on vient de passer les élections européennes. On sait comment fonctionne la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Après, on est les uns et les autres, pas seulement sur le pouvoir d'agir au niveau local. On est aussi dans des démarches de la transition. Et donc, on est dans tout un tas de structures qui vont agir sur tous les plans. Et c'est aussi ça l'intérêt. Le passeur a la chance d'être dans une maison de la transition. C'est là où peuvent se croiser différentes actions et différents débats. Parce que quand on parle des monnaies locales, j'évoquais le rôle d'éducation populaire tout à l'heure. C'était aussi pour essayer d'expliquer aux gens que voilà, il y a une action à avoir à une autre échelle. Ce n'est pas seulement à notre propre échelle. Et souvent, quand on organise des rencontres, on a un travail avec des petits films ou bien avec des outils de jeu pour faire prendre conscience justement de comment ça fonctionne aujourd'hui la finance internationale. Et donc, l'objectif, c'est aussi de faire prendre conscience aux gens qu'il y a à changer le système de finance mondialisé.
Monsieur Jaillet de la NEF, votre regard sur l'euro ?
Si l'euro était fermement engagé dans la transition, je dirais que l'euro, ça serait une monnaie quasiment pas fade, quand même, comme un lien entre plusieurs millions de personnes, c'est quand même pas négligeable. Mais il reste effectivement le rôle que joue la Banque centrale et qui est vraiment pour l'instant à côté de la plaque dans le domaine de la transition.
Monsieur de Villancourt.
Oui, derrière votre question de l'euro, et j'entends la question du système financier entre guillemets classique, parce qu'on a beaucoup parlé d'alternatives en réalité.
Alors national et européen maintenant,
oui,
voilà.
Tout à fait. Il y a à mon avis à la fois la question des alternatives au système financier classique et il y a la question de la régulation de la finance, en n'oubliant jamais encore une fois que l'épargne qui circule sur les marchés financiers est la nôtre. Dans le mot finance solidaire, il y a un aspect qu'on n'a pas vraiment évoqué depuis le départ, c'est tout l'aspect de la finance inclusive également. La finance inclusive, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui concourt à donner accès à la bancarisation et aux services bancaires et services financiers à des personnes qui en sont éloignées. Il y a de multiples manières de le faire. Il y a des banques qui proposent des services plutôt simplifiés, pas forcément tous les moyens de paiement, etc., mais de manière à être accessible à tous, notamment financièrement. Il y a tous les établissements de microcrédit qui proposent un accès au crédit simplifié à des personnes qui n'y ont pas accès. Il y a tous des établissements qui font l'intermédiaire, France Active en fait partie, entre la banque et un porteur de projet. Donc il y a aussi là-dessus beaucoup d'initiatives à porter, à mon avis, au sein du système classique. À titre personnel, je ne crois pas vraiment au grand soir de la finance, mais plutôt aussi à des régulations portées voilà, par petites touches sur différents aspects.
Une question dans le public. Vous êtes madame
Daroussin, Yvonne. Voilà. Il y a eu en mai 2013, dans cette même salle, une conférence de M. Philippe de Ruder, qui d'ailleurs est aussi un penseur des monnaies locales, hein, qui a écrit pas mal de livres, etc. Mais qui faisait observer au cours de cette conférence qu'il y a un bug mathématique avec la monnaie actuelle, que les monnaies nationales actuelles, qui sont créées en même temps qu'une dette. Et on fait comment pour rembourser quelque chose qui n'a pas été mis en circulation ? Pour prendre un exemple béaba, vous mettez 100 billes dans la cour de récré et vous demandez aux enfants d'en rendre 110. Ben, vous avez favorisé la guerre. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On crée 1000 et on demande de rembourser 1100. Et ça fait plus de 50, 100 ans, X années que ça dure.
Je crois que c'est un peu plus que 1100. Hein.
Oui.
Je crois que l'argent qui circule équivaut au montant de la dette.
Voilà, voilà. C'était juste pour prendre des exemples simples. Donc, mais c'est pour dire, c'est un bug mathématique. Il faut arrêter de créer l'argent en même temps qu'une dette. Ça, c'est pour ça, ou c'est une des raisons qui fait qu'on a tout un tas de problèmes aujourd'hui, là. Et il propose un autre système qui est de créer l'argent parce qu'il y a un échange entre des gens et le bien commun. Donc, il n'y a pas lieu à dette s'il y a un échange. Alors, j'ai ici un document. Moi, je ne sais pas l'expliquer en deux minutes, mais j'ai un document de M. de Ruder qui l'explique. Il a un site internet qui explique tout ça très bien. Et c'est une idée qui demande à germer dans tous nos esprits pour que ça puisse mûrir et un jour qu'on arrive à obtenir ça, quoi. Voilà.
Merci. La dimension, je pense que les auditeurs auditrices l'auront compris, elle est également politique. Il va falloir que les citoyens se mobilisent pour justement aller soutenir des établissements bancaires ou alors comme des établissements de garantie financière comme France Active Centre-Val de Loire ou la Nef ou encore Cressol. J'évoque les autres associations qui sont venues, donc le système d'échange local. Il ne s'agit pas d'établissements bancaires, hein, mais plutôt comme la gloire des systèmes d'échange local qui sont représentés également avec Abrélien. Il y avait pour cette émission le passeur, la lignière. J'espère que je n'ai oublié personne. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. C'était pour le Bondy Bloc Centre en direct depuis la soirée de sensibilisation à Saint-Jean-de-Bré en transition sur le thème de la finance solidaire. Merci à toutes et à tous.
Sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.